Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1942, L'eau et les rêves est un essai philosophique et littéraire dans lequel Gaston Bachelard étudie les images que suscite la matière aquatique. Le livre ne propose ni une science de l'eau, ni une interprétation générale des rêves au sens clinique. Il examine plutôt les rêveries, les métaphores et les univers poétiques qui se forment autour des sources, des rivières, de la mer, de la pluie ou des eaux dormantes. Bachelard y développe une approche centrale de son œuvre, celle de imagination matérielle. Selon cette perspective, une substance concrète ne sert pas simplement de décor aux images, elle leur donne une impulsion, une continuité et une tonalité affective. En mobilisant de nombreux écrivains et poètes, il décrit les valeurs imaginaires contraires de eau, limpide ou obscure, vive ou stagnante, maternelle ou funèbre. Son but est de montrer que la poésie révèle une expérience profonde de la matière et que cette expérience éclaire les puissances de l'imagination humaine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'imagination matérielle comme principe de lecture des images aquatiques. La contribution la plus distinctive du livre réside dans la différence entre imagination formelle et imagination matérielle. La première privilégie les contours visibles et les ressemblances, elle peut transformer toute matière en support pour une figure arbitraire. La seconde part des qualités propres de la substance essuie les images que cette substance appelle. Pour Bachelard, eau invite ainsi à penser la fluidité, la profondeur, la dissolution, le reflet, la purification ou le passage du temps. Ces thèmes ne sont pas ajoutés de extérieur à eau, ils prennent forme parce que la matière possède une consistance sensible et une dynamique imaginaire particulière. Cette distinction permet de comprendre pourquoi une rivière ne produit pas les mêmes rêveries que la flamme, la pierre ou le vent. Chaque élément organise un monde de verbes, de sensations et de valeurs. La méthode de Bachelard consiste donc à lire les textes littéraires sans réduire leurs images à de simples ornements. Il cherche les familles de métaphores, les répétitions et les tensions qui manifestent une adhésion intime de l'écrivain à une matière. Cette démarche déplace la question critique au lieu de demander seulement ce que signifie une image isolée. Elle demande quelle substance la nourrit et quel univers cohérent elle rend possible. Deuxièmement, les eaux vives, le mouvement et la rêverie du devenir. Les eaux courantes occupent une place importante parce que leur mouvement offre une expérience sensible du devenir. Une source, un ruisseau ou une rivière ne présente jamais une forme entièrement fixe. Ils suggèrent continuité, fuite, renouvellement et passage. Bachelard analyse la manière dont la littérature fait de cette mobilité un langage pour le temps vécu. Le courant peut porter une méditation heureuse lorsque eau semble légère, chantante ou féconde, mais il peut aussi exprimer une perte irréversible. Sa fluidité rend particulièrement visible le fait que toute forme est exposée à la transformation. Cette ambivalence évite de traiter eau comme un symbole unique de paix ou de pureté. La même matière peut soutenir des rêveries de fraîcheur et de naissance, puis des images de départ, de lassitude ou de disparition. Le livre montre ainsi que la valeur poétique ne découle pas seulement d'une signification conventionnelle. Elle naît d'une relation active entre les propriétés imaginées de eau et les mouvements affectifs de celui qui rêve ou écrit. Pour le lecteur, cette analyse affine attention aux verbes aquatiques dans un texte coulé, jaillir, glisser, déborder ou se perdre ne décrivent pas uniquement une action. Ils orientent une vision du monde où le repos et la stabilité demeurent provisoires. Troisièmement, eau dormante, profondeur obscure et attraction de la mort, une autre polarité essentielle concerne les eaux immobiles, sombres ou profondes. Là où le cours de eau ouvre une rêverie du passage, étang, lac obscur ou eau stagnante font apparaître une intériorité plus lourde. Bachelard observe que la poésie associe fréquemment ses eaux à la profondeur, au silence, au sommeil et à une forme de retour vers une matière originaire. Toutefois, cette intimité peut devenir inquiétante. Une surface calme dissimule une profondeur indéterminée, tandis que la stagnation semble arrêter le mouvement vital. Le livre étudie donc les liens entre imaginaire aquatique et représentation de la mort, non comme une règle psychologique applicable à tous les individus, mais comme une constellation récurrente dans la littérature. Cette analyse prend notamment appui sur la figure de Ophélie, devenue un archétype de la jeune femme noyée dans la réception romantique de Shakespeare. Le complexe de Ophélie désigne chez Bachelard une association poétique entre féminité, eau et mort par immersion. Cette notion est historiquement marquée et ne doit pas être lue comme une description scientifique de la féminité. Son intérêt est critique, elle révèle comment certaines traditions littéraires ont chargé eau de valeurs de dissolution du moi, de tristesse et de séduction funèbre. Bachelard met ainsi au jour la face nocturne de la rêverie aquatique. Quatrièmement, reflet, pureté et ambiguïté morale de la matière aquatique, le livre refuse de réduire eau à une image positive de transparence. Certes, eau claire peut évoquer la fraîcheur, le lavage, la pureté et une proximité avec les origines. mais ses valeurs restent fragiles, car eau reflète autant qu'elle transforme, trouble ou engloutit. Le reflet constitue à cet égard un motif décisif. Il donne une image du monde et du rêveur, mais cette image dépend de la lumière, du mouvement de la surface et de la profondeur qui demeure sous elle. La contemplation aquatique devient alors une expérience de dédoublement plutôt qu'une simple vision fidèle. Bachelard met en évidence la puissance de ces variations. Dans les textes littéraires, une eau limpide peut soutenir un imaginaire de repos alors que la boue. Les eaux noires ou les eaux violentes introduisent souillure, colère et destruction. Ces contrastes importent parce qu'ils montrent que les valeurs morales attachées à eau ne sont pas fixes. La matière offre un foyer de rêverie que chaque poète module selon son propre langage. Cette lecture est utile pour aborder les images de purification avec davantage de précision. Dans un poème ou un récit, se laver, boire, voir son visage d'en haut ou traverser une rivière peuvent relever de registres très différents. Leur sens dépend de l'état de eau, de son mouvement et de la relation imaginaire que le texte établit avec elle. En dernier lieu, une poétique de la lecture fondée sur les constellations littéraires, Bachelard construit son essai par une circulation dense entre réflexion philosophique et lecture de poètes, de romanciers et de mythes. Il ne vise pas une histoire exhaustive des représentations de eau. Son geste consiste à rapprocher des images venues de traditions diverses afin de dégager des constellations imaginaires. Cette pratique donne au livre une forme singulière, argumentation avance par reprise, variation et exemple littéraire, plutôt que par démonstration strictement linéaire. Il faut donc le lire comme une enquête sur les résonances de langage. Les textes mobilisés servent moins à prouver une loi universelle qu'à faire apparaître la fécondité de certaines images matérielles. Cette méthode comporte une limite nette. Les généralisations sur les symboles, surtout lorsqu'elles touchent au féminin ou à la mort, reflètent en partie le contexte intellectuel de l'époque et les corpus privilégiés par auteur. Une lecture contemporaine gagne à conserver cette distance critique. Mais cette limite ne supprime pas la valeur de l'ouvrage. Bachelard propose un outil particulièrement fécond pour lire la littérature, suivre les matières dominantes, leurs transformations et les réseaux de mots qu'elles engendrent. Cette attention évite deux réductions fréquentes, celle qui traite les images comme des codes abstraits et celle qui les considère comme de simples effets décoratifs. Elle restitue à la lecture sa dimension sensible en faisant de la matière un principe actif de composition poétique. En conclusion, l'eau et les rêves convient surtout aux lecteurs de philosophie, de théorie littéraire, de poésie et de critique des images. Il intéressera aussi les artistes ou les enseignants qui souhaitent disposer d'un vocabulaire exigeant pour décrire la présence des matières dans une œuvre. Le bénéfice principal ne consiste pas en une méthode rapide de décodage symbolique. Bachelard apprend plutôt à ralentir devant une image, à observer son mouvement, sa texture et les associations qu'elle rend possibles. Après cette lecture, une rivière, une pluie ou un lac dans un texte ne paraissent plus être de simples éléments de paysage, ils peuvent structurer une tonalité affective, une vision du temps et une relation du sujet au monde. Le livre se distingue des dictionnaires de symboles et des essais psychanalytiques systématiques par son attention aux puissances propres de la matière. Il ne cherche pas à assigner une définition stable à eau, il suit ses métamorphoses dans le langage littéraire. Cette souplesse explique sa place durable dans les études sur la poétique de l'imaginaire. Le lecteur doit néanmoins accepter une prose souvent associative, nourrie de références et de formulations générales qui portent la marque de son époque. Lu avec recul, notamment sur les rapports établis entre eau, féminité et mort, cet essai demeure remarquable. Il associe rigueur conceptuelle et sensibilité littéraire pour montrer que imaginer est aussi une manière de vivre intimement les éléments. Si vous souhaitez soutenir Gaston Bachelard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.